RCF.
La chronique nivernaise des droits humains, la mensuelle d'Amnesty International, groupe de Nevers, numéro 172. Une émission présentée par Patrick Noyon.
Chers auditeurs de RCF, bonjour. Bienvenue dans l'émission La chronique nivernaise des droits humains, une émission proposée par le groupe local d'Amnesty International Nevers. Maintenant, depuis plus de 15 ans, Amnesty International enquête sur les violations des droits humains par les entreprises multinationales. L'organisation Amnesty International alerte l'opinion, par exemple, sur le scandale du travail forcé au Qatar ou l'exploitation de l'huile de palme en Indonésie. Notre but est de renforcer la responsabilité juridique des multinationales afin de permettre aux victimes d'obtenir réparation. Dans ce sens, en France, nous avons soutenu l'adoption d'une proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales à l'égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs également. C'est une première mondiale et notre mouvement a été fier et fer de lance dans ce combat. Aujourd'hui, nous recevons Roger Martin qui, justement, va nous parler du combat qu'il mène à Infi pour lutter contre la toute-puissance des multinationales qui viennent non seulement à polluer, mais à atteindre gravement la santé des riverains du site d'Infi.
Bonjour.
Bonjour. Pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs et nous parler un petit peu du combat que vous menez maintenant depuis de longues années ?
Roger Martin, donc j'habite juste à la sortie du site d'exploitation Arsco. Je connais très bien la composition de ces déchets qui sont traités aujourd'hui par la société Arsco Minéral. Cette société s'est implantée en 2009. Auparavant, ce crassier dont tout le monde connaît l'existence, qui comportait 348 000 tonnes de déchets, était immobile, il ne bougeait pas. Donc, nous n'étions pas impactés par les problèmes de poussière. Mais depuis 2009, maintenant que cette société traite ses déchets pour récupérer la partie métallique, c'est-à-dire surtout le nickel et le chrome, nous respirons toutes ces poussières. Les poussières s'envolent dans l'atmosphère parce que pour récupérer cette partie métallique, ils sont obligés de broyer très finement en farine ces déchets. Et donc, depuis 2009, nous vivons dans une atmosphère polluée parce que ces déchets, un coup broyés, ils sont redéposés en tas. Et donc, comme c'est une farine qui est très très fine, des particules inférieures au micron même, donc vous pensez bien qu'un seul coup de vent, tout s'envole et on est impacté.
Hein. Bien sûr. Cette société, Arsco, n'a pas décidé de façon arbitraire de pouvoir retraiter et de déposer ces déchets. Il y a un arrêté préfectoral qui, notamment, justement, date de 2009, qui a autorisé cette société à faire ce travail.
Oui, c'est bien là le gros problème parce que je pense que la préfecture aurait dû demander plus d'analyse, hein, faire des recherches sur ce crassier, poser des questions aussi aux techniciens spécialisés. Mais moi, j'ai posé des questions à l'ingénieur de l'Adréal qui m'a répondu qu'ils avaient fait confiance à l'industriel.
Pourriez-vous préciser ce qu'est l'Adréal pour nos auditeurs, s'il vous plaît ?
C'est la direction régionale pour l'environnement.
Voilà, d'accord. Voilà.
Et donc, pour moi, c'est un scandale. On n'aurait jamais dû donner une telle autorisation, ne serait-ce que par le fait que personne ne pouvait ignorer les quantités d'amiante qui se trouvaient dans ce crassier. C'est des centaines et des centaines de tonnes. À chaque coulée de métal, vous aviez plusieurs centaines de kilos d'amiante qui partaient avec les déchets sur le crassier. Mais pas que. Toute l'usine, en plus, c'est même écrit dans un journal de l'usine, journal information de l'époque, où tous les déchets de l'usine partaient sur le crassier. Donc, comment a-t-on pu donner une telle autorisation ? Moi, je trouve ça scandaleux.
Alors, en interne, la société avait défini des règles qui venaient à limiter la présence du crassier près des cours d'eau ou bien près des habitations. Il y avait des règles qui avaient été établies par la société Arcelor.
Oui, disons que oui, moi j'ai trouvé sur des recommandations sur internet hein, faites par Arcelor à l'époque, qui disaient que ces déchets doivent se trouver à plus de 60 mètres d'un cours d'eau. Là, nous nous trouvons au bord de l'eau, au bord de la Loire. On est à moins de 30 mètres du lit majeur de la Loire. Et en plus, on peut remarquer des écoulements qui partent en Loire. Ce qui explique d'ailleurs, je dirais, le cynisme des autorités, parce que c'est quand même incroyable de voir que la Loire est classée Natura 2000, mais la frontière s'arrête au pont de Loire, d'un fille qui va à Chevenon, 30 mètres en amont du site d'Arsco. C'est quand même assez impressionnant.
Voilà, on est dubitatif sur cette coïncidence.
Oui, hein. Oui. Alors, évidemment, à cet endroit, il n'y a pas de recherche de métaux lourds ou d'autres déchets dans le limon, dans la Loire, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a, depuis 2009, est-ce qu'il y avait un cahier des charges qui imposait à l'entreprise de contrôler l'environnement de l'usine?
Oui, alors, il leur était imposé de faire deux mesures de retombées de poussière par an avec ce qu'on appelle des jauges Owen. Alors, l'entreprise, en 6 ans, n'a fait qu'une mesure sur les 12 qui étaient prévues. Il n'y a pas que ça aussi. Au départ, il devait y avoir un laveur de roues de camion à la sortie pour que les camions qui entraînent la poussière dans leur roues soient nettoyés à la sortie, et il n'y en a pas. Il y en a un maintenant parce qu'il a fallu que l'on fasse des démarches, qu'on rencontre la direction d'Arsco, la direction de la Peram, pour qu'ils installent un laveur de roues.
Alors, comment s'est structuré petit à petit votre combat ? Est-ce que c'est une démarche d'abord personnelle ? Est-ce que ça a été un mouvement collectif parce que quelque chose a fait que des personnes se sont mobilisées, notamment par rapport à leur état de santé ? Comment s'est créé votre collectif, votre mouvement ? Et comment a-t-il pu commencer ces démarches juridiques ?
J'étais seul au début, avec mon épouse, bien sûr. À partir de 2009-2010... J'ai commencé à voir cette poussière qui retombait partout sur nos habitations, partout dans le jardin, qui rentre même à l'intérieur des maisons. Et là, je me suis vraiment inquiété. Mais je dis, c'est pas possible, quoi. Connaissant les produits qu'il y a dans ces crassiers, je me dis, il faut faire quelque chose. Donc j'ai commencé à faire des courriers en mairie, en préfecture, à rencontrer le directeur d'Arsco, à en parler aussi au directeur d'Apéram, mais je me rendais bien compte que je parlais à des moulins à vent, ça servait pas à grand chose. Hein, de toute façon, ils sont tout puissants et ils se sont dit, le petit garçon là, il va se fatiguer et ça s'arrêtera. Voyant qu'il n'y avait pas d'amélioration, j'ai commencé à faire du porte-à-porte aux gens qui se trouvent autour du crassier et de les avertir du danger qu'ils encouraient. Donc quelques personnes ont travaillé à l'usine, connaissaient un petit peu. Moi, je connaissais bien parce que j'ai fini ma carrière au centre de recherche, j'ai étudié tous les matériaux. Et c'est comme ça que j'ai réussi à regrouper quelques personnes qui aussi individuellement s'inquiétaient et faisaient quelques courriers, mais qui restaient sans réponse et aucun suivi. Alors, les choses ont vraiment commencé à bouger lorsque nous avons saisi le cabinet d'avocats à Paris, spécialisé dans les pollutions, qui est le cabinet TTLA.
Alors, rentrer dans une procédure judiciaire, saisir un cabinet d'avocats, même si on est quelques citoyens et qu'on se réunit, ça nécessite des fonds. Comment avez-vous financé ces premières démarches juridiques? Avec vos propres deniers?
Alors, il faut savoir que le cabinet TTLA, c'est un cabinet qui ne défend que des gens comme nous, c'est-à-dire des victimes. Il refuse de prendre les industriels. Hein. Ils défendent que uniquement les gens qui sont victimes de pollution dans ce genre. Et donc je suis monté à plusieurs reprises à Paris, j'ai rencontré Maître Laforgue, hein, qui est notre avocat, et il m'a proposé de faire un financement participatif. Donc sur le site Ulule, nous avons rempli un dossier énorme en expliquant bien la situation, et nous avons lancé ce financement participatif qui nous a permis de lancer la procédure. Mais de toute manière, je pense que l'avocat nous aurait pris quand même.
Vous parliez des nuisances, les poussières, le jardin, ça rentre dans la maison, les maisons qui sont aussi recouvertes de poussière. À partir de quand vous vous êtes aussi rendu compte qu'il y avait des impacts sur la santé des riverains ?
Bah, disons que...
C'est peut-être quelque chose que vous soupçonniez, mais...
Oui, oui, quelque chose que je soupçonnais. Connaissant bien la composition de ces crassiers et sachant tout ce qui a été déversé dessus, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait d'autres...
Que ce ne soit pas toxique.
Voilà.
Ça, bah, bien sûr. Oui, oui, je comprends bien.
Mais on a quand même fait des analyses.
Ouais.
On a fait des prélèvements que nous avons envoyés à un laboratoire et qui a révélé... évidemment, tout ce que je redoutais, c'est-à-dire une quantité énorme de métaux lourds, hyper toxiques, comme le nickel, le chrome, il y a même du radium, les terres rares. Vous avez de l'arsenic, vous avez du plomb, de l'aluminium en quantité très impressionnante, etc. Et aussi, les personnes ont commencé à avoir des allergies quand même, les yeux, la peau. Nous avons un monsieur là qui est sous respirateur. Enfin, nous avons pas mal de personnes qui sont atteintes. La thyroïde aussi, la thyroïde. Mon épouse s'est trouvé 20 nodules à la thyroïde alors qu'il y a aucun antécédent
familial.
Oui. À la sortie du site, vous avez une famille, une jeune famille qui ont 3 petits-enfants en bas âge. Et les 3 enfants sont sous bronchodilatateurs. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et pareil, là dans cette famille, aucun antécédent familial. Donc c'est quand même assez impressionnant, quoi. Alors quel sera l'avenir de ces enfants? Parce qu'il faut savoir que l'amiante, ça sera dans 20-30 ans.
Vous faites bien de citer l'amiante parce que les procès qui sont liés à l'amiante durent depuis 50 ans. Et encore maintenant, pour indemniser les victimes, ça reste extrêmement complexe. Si on aurait un mauvais esprit, on dirait on attend qu'il meure avant de pouvoir le verser quelconque indemnité. Et on pourrait craindre, si justement vous n'êtes pas vigilant et si la collectivité n'est pas vigilante, que ces personnes soient entraînées dans ce même imbroglio juridique de faire traîner les choses par ces sociétés multinationales qui peuvent attendre très très longtemps, juridiquement parlant.
Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je me suis vraiment inquiété, quoi. Quand j'ai vu ces poussières tous les jours, des centaines de camions aller-retour qui nous balançaient de la poussière, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une bombe à retardement.
Alors, Infi, pour moi qui suis étranger à la région, je viens d'une région aussi sidérurgique puisque c'est le nord, à Dunkerque, là, c'est de la grosse sidérurgie plus pour le bâtiment, pour l'automobile. Bon, Infi, c'est un site d'acier spéciaux, d'où l'arrivée dans la production de tous ces ajouts, nickel, chrome et ainsi de suite. Mais néanmoins, l'activité elle-même sidérurgique de Infi a beaucoup décliné ces dernières années. Cependant, est-ce que le crassier lui continue à augmenter en volume? Est-ce que, justement, n'est retraité que les résidus d'Infi ou bien sont aussi retraités ou du moins amenés des résidus d'autres usines du groupe?
La quantité d'acier produit à Infi n'a pas réellement diminué. Elle a plutôt eu tendance à remonter ces dernières années. Et c'est parce que ce qui a fermé, les ateliers qui ont fermé à Infi, c'est les ateliers de transformation. Mais les fours continuent de produire de l'acier. En ce qui concerne la production de laitier de déchets, elle augmente. Mais le problème, c'est que nous sommes les seuls, à ma connaissance en France, le seul endroit où on traite ces déchets. C'est-à-dire que l'entreprise Arsco a tenté de s'installer à Firminy, où ils ont 2 crassiers, 1 500 000 tonnes de déchets historiques. Ils ont tenté de s'installer en 2013. En 2013, toute la population s'est soulevée et ils n'ont pas pu s'installer. J'ai eu vent aussi qu'ils avaient tenté de s'installer en Autriche, c'est non. En Allemagne, c'est sûr, c'est non. En Belgique, apparemment, c'est non. Il a même été question à un moment donné que les déchets d'acierie d'Aperam Belgique viennent à Infi pour être traités. Donc vous voyez qu'on n'est pas sorti de l'auberge si on fait rien, quoi.
Tout à fait. Alors nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter le groupe Niagara qui va vous interpréter « J'ai vu ». Alors cette chanson traite d'une jeune fille ou d'une personne qui parcourt le monde et qui raconte ce qu'elle y voit, à la fois les belles et les mauvaises et les moins belles choses. On peut pas s'empêcher de faire le lien avec le poème de Baudelaire qui s'appelle « Le voyageur ». Confronté à la beauté de la nature et qu'on essaye encore de nous mettre en évidence maintenant. On voit aussi les dégâts qui sont faits par l'homme. Alors, dans Baudelaire et dans son poème, c'est à travers la guerre et les horreurs de la guerre. À travers Niagara, cette chanson commence à parler de la pollution et de la transformation de notre planète. C'est vraiment un sujet d'actualité. Donc, la chanson « J'ai vu » par le groupe Niagara. On retrouve Monsieur Martin tout de suite après. Chers auditeurs de RCF, vous êtes à l'écoute de l'émission La Chronique Nivernaise des Droits Humains, une émission proposée par le groupe local d'Amnesty International. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Martin, qui mène un long combat, un combat difficile pour lutter contre la pollution à Infi par l'usine Asco. Alors nous avons parlé un petit peu des débuts de son combat, de quoi est composé le laitier, les métaux lourds qui le composent. Et maintenant, ma question est, de ces déchets, on ne peut rien en faire? Est-ce qu'il y a eu des tentatives pour en faire quelque chose, pour le transformer, pour le fixer?
Oui, alors, au départ, les résidus, après récupération des métaux, ont été mis dans les routes, par exemple, hein, autoroutes, routes. Mais on s'est vite rendu compte que, comme c'est de la farine, ce n'était pas stable. Donc les routes se déforment. On a des exemples d'ailleurs, pas très loin d'ici, je crois sur Decize, où la route c'est une multitude de dodanes, et puis ailleurs. Hein. Je sais aussi qu'il avait été utilisé en remblai pour monter à Nevers, au Courlis, dans le quartier des Courlis, une maison de retraite, une maison médicalisée. Je crois que c'est dans ces 10 dernières années, ils ont été obligés d'évacuer la maison de retraite parce qu'elle se fissure de partout à cause du sol qui n'est pas stable. Elle a été montée sur des laitiers. Donc voilà, c'est un exemple.
Elle a été fonctionnelle, elle a accueilli des résidents.
Elle a accueilli des résidents, mais ils ont été obligés d'évacuer les personnes âgées et de raser ce bâtiment.
Ah, c'est quand même étonnant.
Oui.
Ouais. Et donc, il n'y a pas de solution pour traiter ce crassier, quoi.
Alors, les déchets, maintenant, à ma grande surprise, et encore une fois de plus, je suis scandalisé, c'est qu'il n'y a plus que les fermiers qui veulent bien récupérer ces déchets qui sont gratuits, on leur paie même le transport. Et donc, on met ça dans des fermes pour faire des stabulations, c'est-à-dire que on fait du terrassement avec ces laitiers. Après, évidemment, on recouvre d'une couche, pas partout, mais d'une couche de bitume. Je crois que on trompe les agriculteurs. On leur dit pas la vérité. C'est que un jour ou l'autre, ces déchets partiront dans la nappe phréatique. Et de toute façon, j'ai déjà remarqué à certains endroits où ils ont fait ça, eh bien, c'est comme un champ de mine, vous avez le revêtement.
C'est toujours aussi instable, quoi.
Voilà, ouais. Qui se déforme, qui fait des dodanes. Voilà. Et puis aussi, ils en mettent encore dans des chemins forestiers.
Vous me disiez tout à l'heure que sur le volume du crassier, en tout cas des déchets qui sont amenés, la société qui essaie de retraiter, elle ne récupère que quelques pourcentages très infimes.
Oui, 2 à 3% de ces déchets. Tout le reste, c'est du minéral. Enfin, minéral, oui, c'est de la silice, de la chaux, de la magnésie. Il n'y a pas vraiment d'utilisation de ces produits.
Il y avait un article qui vous a été consacré dans la chronique d'Amnesty International. Le titre, c'est « Un silence de plomb ». Titre qui serait tout à fait bien pour notre émission de reprendre ce titre, parce que vous disiez également que au niveau des médias, ça n'avait pas été si simple que ça de pouvoir diffuser votre message, en tout cas d'alerter la population et d'alerter les médias sur ce qui pouvait se passer sur Infi.
Oui, c'est l'omerta, parce que moi, je n'ai eu de cesse d'avertir les médias locaux, hein, on les connaît, il n'y en a pas énormément, et on ne me répondait pas. On ne me répond pas, malgré mes arguments, en répétant la dangerosité. Donc, il a fallu que ce soit un média de Lyon, hein, qui vienne sur le site. Et qui se rendent compte de ce qui se passait et fassent paraître un article dans Lyon Capital, ce qui a permis de tout déclencher. Le lendemain, j'avais les médias locaux qui arrivaient à toute vitesse. Voilà. Moi, bon, je les abusais.
Bien sûr. Et au niveau des pouvoirs publics, à travers la préfecture ou à travers d'autres instances, quel accueil vous a-t-on réservé? Comment ça s'est passé avec eux?
Ouais, avec la préfecture, ça a été très dur, quoi. Je me suis rendu en préfecture en 2015, début 2015, pour éplucher l'arrêté d'autorisation. Et à ma venue, quand j'ai demandé de consulter ce dossier, l'ingénieur de la DREAL a tout de suite demandé à me voir. Et c'est là que je lui ai posé plusieurs questions. Et je lui ai fait énormément de remarques en lui disant « Mais vous vous rendez compte, vous avez touché un site amianté. Comment avez-vous pu donner une telle autorisation ?» Ah mais sa réponse était non, il n'y a pas d'amiante. Je dis attendez, moi j'ai passé ma vie dans cette usine, je sais très bien, j'ai manipulé l'amiante sous toutes ses formes, je sais très bien la quantité d'amiante qui se trouve dans ce crassier. Je suis pas le seul en plus, hein. Je suis pas le seul, les mairies le savaient très bien. Hein. Vous avez aussi par exemple la mairie d'Infi, je dérive peut-être un peu du sujet, qui a donné un avis favorable. La majeure partie des gens qui sont élus à la mairie d'Infi ont travaillé à l'usine, donc je suis scandalisé. Et donc non, l'attitude de la préfecture, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une bêtise et ils tentent de rattraper le coup, mais en camouflant.
Donc, pour l'instant, votre combat juridique en est où actuellement?
Alors, la première...
Est-ce que vous êtes arrivé à une première prise de conscience, voire une première condamnation sur le site d'Infi du directeur ou bien des représentants d'ASCO? Est-ce qu'il y a déjà eu un résultat concret ou pas?
Oui, alors... Lorsque la préfecture a appris que nous avions saisi un cabinet d'avocats très spécialisé et d'une grande renommée, ils ont pris peur. Et dans la foulée, ils ont fait un procès verbal, ils ont donné un procès verbal à la société ARSCO pour non-respect de l'arrêté d'autorisation. Ils auraient dû le faire bien avant, puisque ils savaient lors des inspections qui ne respectait rien du tout. Mais il a fallu qu'ils sachent qu'on avait saisi, que nous saisissions la justice pour qu'ils bougent. Donc, à mon avis, ils ont ouvert le parapluie et ils ont donné un PV à ARSCO. Sauf que le procureur a retourné ce PV au simple tribunal de police. Donc, au tribunal de police...
Ça limite le montant de l'amende, aussi.
C'est simplement une amende.
Voilà, c'est ça.
Donc, en plus, il y a eu un travail de la part d'ARSCO la multinationale, c'est-à-dire que Arsco Infi, il y a eu une fusion-absorption, donc avec effet rétroactif, c'est-à-dire avant la plainte de la préfecture, donc Arsco au niveau national n'est plus concerné.
Voilà, ça ne les concerne plus. Juridiquement, ils ne sont plus concernés. Voilà.
Donc on ne pouvait, le juge ne pouvait que sanctionner le directeur local. Et on sait très bien que ça allait être une petite sanction. Donc il a dû avoir 1 000, 1 500 euros d'amende. Voilà. Bon, mais ceci dit, nous avons fait appel. Nous avons fait appel. Nous savons aujourd'hui que la cour d'appel aura lieu à Bourges donc le 6 septembre de
Alors,
cette année.
J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des négociations qui étaient en cours pour essayer d'améliorer la situation, soit pour couvrir un peu ce crassier, soit pour le délocaliser, soit pour essayer de prendre des mesures de confinement ou bien d'épuration de l'air. Quelles sont les personnes qui mènent les interlocuteurs qui mènent ces négociations et à quel stade en êtes-vous ?
Au sujet de négociations concernant l'arrêt de la pollution, pour nous, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est délocaliser ce site. Ce n'est pas possible. Couvrir ce site, il fait quand même pas loin d'un kilomètre de long. En plus, avec la hauteur d'état, les pelleteuses qui travaillent dessus, il faudrait monter le Parc des Princes. Hein. Et donc, ça serait encore une verrue pour les gens du Val-de-Loire qui ne verraient plus le fleuve, la Loire, ça serait quand même ennuyeux. Hein. Et de toute façon, ça n'empêcherait pas la diffusion des poussières, puisque vous avez les camions qui rentrent et qui sortent sans arrêt. Donc je ne vois pas comment on peut régler le problème, à part délocaliser.
Très bien. Est-ce que vous avez un mot à rajouter par rapport justement à votre travail et à votre action ?
Au sujet de la justice, bon, le tribunal de police, c'est la préfecture qui a donné un PV, mais nous avons déjà commencé, en partie, une première intervention en justice contre la préfecture, puisque la préfecture a laissé faire, elle savait, et elle a laissé faire. Donc, nous attaquons, nous demandons des préjudices à la préfecture. Prochainement, alors, la procédure, nous demandons une RPI, une réclamation préliminaire indemnitaire auprès du préfet. Le préfet a 2 mois pour répondre. Là, c'est arrivé à terme. Il n'a pas répondu. Donc, ça part dans les jours qui viennent au tribunal administratif, donc Dijon. Et c'est le tribunal administratif qui décidera
de la suite.
La suite.
Très bien.
Voilà. Mais c'est pas fini. Il y aura encore une autre action. Je me rends à Paris prochainement. Et je ne peux pas trop dire ce qui se passe parce que nous avons fait énormément d'analyses, de prélèvements encore. Pour confirmer, parce que les premiers prélèvements que nous avions faits en 2015 ont été lourdement critiqués, puisqu'ils n'avaient pas été faits devant huissier. Là, nous avons fait des prélèvements devant huissier de justice, à plusieurs endroits. Nous avons les résultats que je ne peux pas donner, évidemment, que notre avocat me demande de ne pas divulguer.
Tout à fait.
Oui. Et donc, nous allons discuter, au mois de juillet, là, de quelle manière nous allons continuer en justice, mais ce sera une troisième procédure.
Alors, ma dernière question s'adresse à l'homme, au militant que vous êtes pour votre combat. Toujours la même énergie après ces deux ans de combat pour mener votre travail. Du soutien, vous en avez ? C'est dur parfois ?
Oui, alors c'est très, 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 très dur parce que les services de l'État menacent évidemment, il n'y a pas que les services de l'État, aussi vous avez APERAM, hein, APERAM, le directeur d'APERAM, qui menace au niveau de l'emploi. C'est-à-dire, le collectif fait fermer Arsco, nous fermerons une partie de l'usine. Ce qui est complètement stupide. L'usine d'APERAM s'est passée d'Arsco jusqu'en 2009. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui elle ne pourrait pas continuer de s'en passer. Donc c'est du chantage et toutes les autres aciéries françaises et d'Europe se passent de ce genre de traitement. Donc je ne vois pas pourquoi on... Alors, toujours pareil, on fait peur à la population et le chômage. Et vous avez des personnes qui ont encore des gens qui travaillent, de leur famille, qui travaillent dans l'usine. Donc c'est très compliqué. Moi, j'apprends qu'on leur fait du chantage. J'ai trouvé aussi des personnes malades qui ont travaillé chez Arsco, très malades, et qui étaient parties avec nous dans le combat et qui, bizarrement, on n'entend plus parler. C'est quand même étrange, quoi.
Bien sûr. En tout cas, Roger Martin, merci beaucoup pour être venu nous expliquer la situation d'Infi, une situation qui est vraiment encore très méconnue par nos auditeurs et pense par l'ensemble des Nevers-Sois et des Nivernais. Nous serons vigilants aussi à votre combat. L'antenne sera toujours ouverte pour pouvoir vous exprimer et nous faire connaître l'avancée de la situation. Chers auditeurs, l'émission de la chronique nivernaise des droits humains est actuellement terminée. Nous allons nous retrouver en septembre pour une nouvelle année d'émission et nous essaierons maintenant le plus en plus souvent de vous amener des témoignages de proximité. Donc n'hésitez pas à contacter RCF ou bien amnesty.nevers@laposte.net pour nous faire connaître des situations qui seraient utiles de faire connaître au plus grand nombre. Patrick Noyon d'Amnesty International vous dit au revoir, bonnes vacances et à septembre.